Je ne savais pas que c'était une maladie. Aujourd'hui, je ne me sens plus coupable. Alcoolique anonyme, ça marche bien pour moi. Pourquoi pas pour vous ?
Alcoolique anonyme, je viens d'arriver pour partout en France. Vous trouverez des espoirs.
Alcoolique anonyme, 6e sur RCF Haute-Normandie. Je suis alcoolique anonyme, j'ai pas honte de le dire, je ne suis plus coupable, mais ils tiennent à le dire, je suis toujours alcoolique anonyme. C'est quand même étonnant. Bon, dans cette 6e émission, aujourd'hui, ce sera avec Maryse. Bonjour Maryse.
Bonjour.
Et Alain.
Bonjour Henri.
Alors, vous avez prévu un programme avec des mots impressionnants, voir, progresser, instituer, mais je crois comprendre qu'il y a du vital là-dessous, hein. Pardon.
Oui, bien pour le premier mot,
oui.
Voir, quand je dis voir, c'est voir ma vie de, aux prises avec l'alcool, dans l'enfermement le plus total, et désespéré, arriver à cette première réunion, et donc voir, alors pour le coup, des femmes et des hommes qui se présentaient comme alcooliques et n'ayant pas bu pour aujourd'hui.
Quand j'ai vu que j'étais alcoolique anonyme, que j'ai réalisé, j'ai décidé d'aller voir.
Oui.
D'aller rencontrer quelqu'un.
Oui, on peut dire, j'ai fait ma... je suis allé voir, mais au départ, bien que j'étais en grande difficulté, j'ai assisté à cette réunion, mais j'étais très en colère parce que quand je suis sorti de cette réunion, eh bien, alors que j'ai dit que moi je n'avais pas de problème d'alcool, en fait je cherchais une méthode pour boire normalement, mais ce n'est pas possible, ce n'était plus possible dans mon cas. Et au sortir de cette réunion, j'ai commencé à prendre ce verre d'alcool et j'ai dit mais merde, pardon, je venais de dire que j'avais pas de problème d'alcool et la première chose que je fais, je prends ce verre d'alcool. Et là, ça m'a vraiment fait réfléchir et j'étais décidé à retourner voir, en effet, pour le coup, et écouter les alcooliques, les personnes qui étaient dans ce groupe d'alcooliques anonymes.
Oui, c'est un paradoxe, hein. C'est une force qui naît de la défaite et de l'impuissance totale. Il faut perdre sa vie pour passer pour en créer une nouvelle.
C'est ça. C'est ça, Henri, parce que moi, je suis arrivé un peu comme un mourant, un peu désespéré. Et en fait, il n'y avait plus personne autour de moi. Bien sûr, mes parents, ma famille avaient eu tellement honte. Ça avait été, mon expérience avec l'alcool avait tellement été conflictuelle. Il n'y avait plus personne. Et les quelques personnes qui essayaient de m'aider, et, bon, ça n'aboutissait pas.
Et pourquoi on faisait le vide autour de soi ? Parce qu'on était agressif avec les autres ou parce que les autres ne pouvaient pas supporter ?
C'est les deux, Henri. Dans mon cas, c'était d'abord parce que j'étais agressif, alcoolisé. J'étais quelqu'un de très méchant. J'étais quelqu'un qui plaintif, qui souffrait, mais qui ne voyait pas ce que c'était de la souffrance, mais qui était vraiment dans, oui, dans le revendiquer, agressif vraiment. Et les gens, enfin ma mère en particulier, elle était vraiment désespérée. Et elle m'a signifié, m'a dit c'est la dernière fois que je te vois, je ne te supporte plus. Et c'est comme ça. Et donc après, j'ai eu cette descente aux enfers. J'ai hélas découvert les institutions, la psychiatrie, voire la prison. Et moi, en ce qui me concerne, je suis allé jusqu'au bout avec cet alcool.
Et alors là, donc, c'est quand même le salut le jour où vous êtes allé voir les autres dans les réunions.
Oui. C'est presque miraculeux parce que il y avait un instinct de vie, quelque chose qui a fait que j'ai eu l'énergie de me présenter, d'aller à cette réunion, une sorte de curiosité, je sais pas exactement, mais je me rappelle très très bien les gens qui étaient là à cette réunion, notamment cette femme qui m'a, à l'époque on pouvait fumer dans les salles de réunion, à la fin de la réunion, elle m'a offert juste une cigarette, m'a pas parlé, m'a dit surtout reviens. Et son regard, cette gentillesse, cette parole de non jugeante m'a apaisé et m'a donné le désir de, malgré tout, malgré ma plainte et de me dire, moi ce que je voudrais c'est du travail, moi ce que je voudrais c'est un logement, parce qu'en alcoolique anonyme, c'est pas ça qu'on donne. On donne la possibilité, un jour à la fois, de vivre sans alcool et d'essayer de vivre sans alcool. Voilà.
Et par la suite, d'être capable soi-même, en autonomie, de rebâtir sa vie.
Oui, tout à fait.
Dans quel état d'esprit êtes-vous rentré à la maison après cette première réunion ?
en colère un peu et à la fois et dans l'espérance, malgré tout, parce que j'ai entendu un type qui a raconté sa vie et sa façon de marcher dans les rues, sa façon de brailler, enfin tout ce qu'il expliquait, ça avait été un peu mon histoire, enfin c'était mon histoire. Et là, en fait, j'avais plus de raison de me plaindre, parce que cet homme avait vécu et il se présentait à moi comme quelqu'un de bien habillé, qui parlait correctement, qui avait une voiture, enfin un travail, une vie, hein, une vie normale, hein, rien de particulier. Mais moi, c'était des choses que l'alcool m'avait enlevé ou à cause de l'alcool, j'avais perdu. Donc, j'étais, oui, je peux dire un peu, j'avais un peu d'espoir. C'est-à-dire que, bon, bien entendu, ces gens-là en avaient beaucoup, enfin, eux avaient de l'espoir pour moi, parce qu'ils savaient de quoi j'étais atteint, ça c'est certain.
Et on remarque assez souvent que dans la rue, des gens qui boivent, ils gueulent. Comment vous expliquez ça? Pourquoi cette envie de gueuler?
Il y a une colère, hein, le désespoir dans lequel on se retrouve avec l'alcool. D'abord, ça désinhibe, hein, l'alcool, ça enlève toute peur. Et puis, il y a une vraie colère de ne pas pouvoir boire normalement. Dès que moi, je commençais à boire, je vidais des bouteilles jusqu'au point de délirer, de faire n'importe quoi. Et c'est vrai que ces personnes qu'on peut voir brailler, c'est une rage, une colère d'avoir tout perdu, parce que l'alcool nous fait tout perdre quand même, hein. Tout contact avec l'autre, même avec les gens qu'on aime.
Alain, Maryse, ben, on est quand même dans le lourd ici. On va demander à Monsieur Mozart de nous donner un petit peu de léger avec cette sonate pour violon et piano qui est magnifique. Ah oui, Mozart, cette sonate pour violon et piano, en voilà deux qui causent ensemble, qui s'écoutent et qui jouent ensemble, c'est magnifique. Alcoolique anonyme 6e avec Maryse et Alain. Alain, vous venez de nous parler de ces rencontres décisives le jour où on est allé voir, on est allé rencontrer les autres. Et puis, vous nous proposez d'avancer, de progresser. Et là, on va progresser avec Maryse. Maryse, tout à l'heure, on évoquait avant l'émission quelques chiffres records de votre vie, quelques tranches de vie. Allez-y, Maryse.
Oui. Bonjour, je m'appelle Maryse et je suis alcoolique. J'ai bu pendant 20 ans, pratiquement tout juste 20 ans. J'ai commencé à boire à 13 ans et j'ai arrêté à 34 ans. Ça fait 21 ans exactement. Et ça va faire dans quelques semaines 26 ans que je n'ai pas bu d'alcool. Je suis abstinente. Voilà mes chiffres.
Voilà. Vos records personnels, oui. Alors, progresser, bon, évidemment, ça a été la prise de contact. Comment vous êtes venu rencontrer les AA? Pourquoi?
Oh, j'avais aucun doute sur le fait que j'étais alcoolique. Ça, au moins, je ne me posais plus de questions là-dessus. Je m'en suis jamais tellement posée. Je me suis rendu compte du fait que j'étais alcoolique quand j'avais à peu près 20 ans. D'ailleurs, un médecin me l'avait dit. Un médecin m'avait dit, c'était une amie qui venait de terminer ses études de médecine. J'étais étudiante à ce moment-là. Elle me dit, tu sais, t'as un vrai problème avec l'alcool. Et à 20 ans, on se dit, moi, j'ai dit, mais moi, je bois pour faire la fête. On faisait la fête. Je faisais mes études à Amiens. On faisait la fête, quoi. Voilà,
Ça n'a pas gâché complètement votre jeunesse. Vous avez pu faire vos études quand même.
J'ai pu faire mes études. Moi, j'ai eu la chance dans l'alcool de ne rien perdre. Je me suis mariée. J'ai fait mes études. Je me suis mariée. J'ai eu des enfants. J'ai toujours gardé un bon contact avec ma famille, avec tout le monde. J'étais complètement dans le non-dit au niveau de l'alcool. D'ailleurs, je buvais seule. J'ai surtout bu seule, pas quand j'étais plus avant 20 ans, bien sûr, je buvais avec d'autres, mais j'ai toujours eu une consommation en plus de celle qui était officielle. J'avais une consommation solitaire. C'est celle-là qui m'intéressait le plus, d'ailleurs.
Solitaire et cachée ?
Et cachée, bien sûr. Et puis, donc, quand je me suis mariée, il y avait toujours une bouteille qui était bien cachée sous l'évier. Et puis, ça a continué. Le problème, c'est qu'au départ, c'était quelques verres dans la journée qui étaient cachés. Et puis, quand c'est caché, personne ne nous regarde. On ne se regarde même plus soi-même, je crois. Je me mentais.
On n'a pas la honte encore.
Voilà. Me mentais à moi-même. Je me disais, je vais en prendre un petit verre, et puis un petit verre, puis un petit verre. Puis les bouteilles, c'était une bouteille par jour. Puis c'était deux, puis c'était trois. Et puis,
Un beau jour, ça suffit comme ça?
Et puis, ça a été les 5 dernières années. Surtout. J'avais 30 ans, donc à 30 ans, j'ai eu un troisième enfant et je m'étais dit, là, c'est fini, là, je vais être une bonne maman. C'était donc mon troisième enfant, j'ai dit, ça va être formidable. Et puis non, je suis sortie de la maternité et le lendemain, j'étais chercher ma bouteille parce que je suis alcoolique et que je ne savais pas vivre autrement. Donc là, j'ai été déçue de moi-même, quoi. Je suis quelqu'un qui a toujours eu beaucoup d'espoir, mais là, pour une fois, l'espoir dans ma vie a été en déclinant pendant toutes ces années. Depuis 80 à 85, ça a vraiment été en déclinant jusqu'au jour où j'ai dit c'est plus possible. Je peux pas aller plus loin. Je pouvais plus aller plus loin.
Alors c'est plus possible. Alors qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là?
L'idée, c'était de disparaître. Ça devenait obsessionnel. Depuis plusieurs années, ça devenait obsessionnel de disparaître, de tout laisser, voilà. Et de partir, de disparaître, de mourir.
De mourir. Ah bon, d'accord, oui.
Et puis je me disais, non, j'ai pas le droit, j'ai 3 enfants, j'ai pas le droit. Mais je n'arrivais plus à vivre, en fait. Et puis, qu'est-ce qui a fait que... Alors, je me souviens qu'en 1974, donc bien avant, plus de 10 ans avant, j'avais appelé les alcooliques anonymes. Je ne sais plus pourquoi. Mais comment j'ai trouvé le numéro, je ne sais pas.
Ça avait été sans suite, en fait.
Ça avait été sans suite. J'ai appelé, j'ai fait le numéro et puis c'est tout. J'ai entendu quelqu'un, puis j'ai pas osé. J'avais trop honte, c'était pas possible de le dire. Et puis, ça m'est revenu 10 ans après, un soir où vraiment j'avais encore bu, bien sûr, comme la veille et l'avant-veille, mais encore plus peut-être. Alors que je m'étais bien juré le matin de ne pas boire, c'était un mercredi, donc...
Première réunion.
Et puis là, j'ai téléphoné, enfin téléphoné, et là, ça a été un soulagement, on m'a dit, il y a une réunion. J'ai eu la chance d'être reçue avant la réunion par quelqu'un. Et là, ça a été le soulagement, vraiment, ce monsieur qui m'a dit, je suis alcoolique. Et alors, ce mot a été lâché. Lui, il m'a dit, je suis alcoolique. Et moi, je lui ai dit, mais moi, c'est pareil. C'est ça que j'ai.
Nous sommes des frères en alcool.
Je ne suis plus la seule alcoolique. Il y en a un autre. Mais un alcoolique qui tient debout, quoi. Oui. Parce que moi, je ne voulais pas aller rencontrer des gens qui traînaient dans la rue ou je ne sais quoi. Donc, c'était un alcoolique souriant, qui avait l'air d'aller bien et qui me disait, je suis alcoolique. Comment on fait, quoi?
Et alors, vous êtes allé à une première réunion.
Là, l'espoir est revenu tout de suite. Oui. Dans cette journée, c'était le 7 mars 85. Et cette journée-là, c'est encore un chiffre, justement, que celui-là, je l'ai vraiment inscrit.
Ça a été une réunion décisive, on peut dire.
Ça a été, voilà.
Décisive. Et en retour à la maison, c'était fini. Plus aucune envie d'alcool.
Je ne dirais pas que j'ai plus jamais eu envie d'alcool, mais je n'ai plus jamais bu d'alcool depuis ce jour-là parce que j'ai compris, je ne savais pas qu'il fallait arrêter complètement de boire. Je n'avais jamais consulté de médecin et je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et on m'a dit jamais, jamais une goutte. Et là, je n'ai plus jamais bu une goutte, ça m'a quelquefois effleuré l'esprit dans les premiers temps.
Alain et Maryse, on a vu dans notre programme d'émission ces deux mots, voir progresser. Alors Maryse, qu'est-ce qui vous a permis de progresser ?
Eh bien, le programme des alcooliques anonymes, parce que j'ai enfin trouvé, j'ai envie de dire, un sens à ma vie. J'ai trouvé, il y a un programme chez les alcooliques anonymes, un programme en 12 étapes, un programme de rétablissement. Alors, ça commence par des choses très simples. Ça commence d'abord, je me souviens, et je le fais toujours d'ailleurs, j'ai mon petit programme de la journée. Aujourd'hui, là, j'ai un petit carton dans mon sac où je sais surtout pas oublier que j'ai ça, ça, ça à faire. Ne jamais rester dans cette incertitude. J'étais chez moi, j'avais des tas de choses à faire. Une maman, ça a des tas de choses à faire. Puis comme je ne savais pas par où commencer, ben je commençais par boire un verre.
Alors, et éviter le vide, parce que le vide, voilà, est dangereux.
Surtout pas rester dans le vide. Tiens, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais m'asseoir et puis prendre une cigarette et un verre. Voilà, ça revient toujours à ça. Alors là, je restais surtout, ce n'est pas que j'étais active toute la journée comme une folle, mais d'ailleurs, quand je ne savais plus, je téléphonais. Parce qu'il y a ça chez les alcooliques anonymes, c'est cette aide que l'on trouve à toute heure du jour ou de la nuit, on peut téléphoner. Quand ça va pas, quand il y a ce petit coup de blues qui arrive tout doucement, où on est dans cette incertitude, que j'ai envie de rien, il fait mauvais. Alors là, je téléphonais, et puis voilà, l'idée de me reprenait, de partir, j'ai dit, tiens, je vais aller au cinéma, tiens, je vais faire mes carreaux, mais enfin, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis ça passe très vite.
Hein. On parlait de progresser, là, quelques instants, là. Est-ce qu'il y a une chose qui vous a spécialement aidé à progresser?
Oh, il y a tout un tas de petites phrases que l'on dit chez Léa. Une toute petite phrase, l'important d'abord. Qu'est-ce qui est important quand ça ne va pas, quand je ne sais plus où aller, qu'est-ce qui est important? Je n'ai pas bu aujourd'hui. Voilà. Même si rien ne va autour de moi, je n'ai pas bu aujourd'hui. Et tant que je ne boirai pas ce premier verre à l'alcool, je peux dire que je vais bien.
Donc fierté.
Quoi qu'il m'arrive.
Donc j'ai avancé d'une journée.
Voilà, j'ai avancé d'une journée et puis... Oui, j'ai avancé d'une journée et puis tout ce que j'ai à faire devient possible. Parce qu'avec l'alcool, rien n'est possible. Rien n'est plus possible avec l'alcool.
Allez, nous retournons vers notre ami Mozart qui nous avait tellement mis en joie tout à l'heure, qui va nous donner de la légèreté et qui n'est pas superficiel, monsieur Mozart, non plus. Hein, bon. Alcoolique anonyme 6e sur RCF Haute-Normandie avec Maryse et Alain. Et Alain, tout à l'heure, vous avez posé un programme, aller en rencontrer d'autres pour avancer. Maryse, comment progresser jour par jour? Alors Alain, vous avez employé un troisième mot, instituer. Alors, oh là là, les institutions, là, je ne comprends pas très bien, Alain. Là. Instituer.
Oui. Le mot est... je ne sais pas comment dire. Ce que je voulais préciser surtout, c'est...
Il faut créer des moyens.
Créer des moyens. Voilà. Et quand je dis instituer, c'est ritualiser. Le mot plus approprié, c'est ritualiser. Et pour moi, le premier rituel a été, que j'ai respecté d'ailleurs à la lettre, c'est aller en réunion toutes les semaines. Toutes les semaines, j'attendais ce jour. D'abord, dans mes premiers 6 mois d'abstinence, j'attendais cette réunion. Il n'y avait qu'une réunion à Rouen quand je me suis installé à Rouen en 76. Mais j'attendais cette réunion et j'étais content. Je ne peux pas vous expliquer si j'ai arrêté de boire au mois de septembre 76. Donc, et au moment de Noël, je me souviens toujours remonter la rue du Gros, illuminée. C'était la première fois, j'avais un peu d'argent sur moi, je n'avais pas envie de boire, j'étais heureux et libre. Et au sortir des réunions, donc les réunions ont lieu, des alcooliques anonymes ont lieu souvent le soir, de 20h à 21h30, 22h. Et sortir de ces réunions où on peut échanger nos expériences, ça c'est quelque chose, une vraie richesse, et je m'en souviens encore
des moments de sa vie qu'on n'oubliera jamais.
Jamais,
je pense, oui.
Traverser le pont Boisdieu, voir la Seine, voir l'eau, c'était magnifique.
Et alors, instituer, c'est donc aller assister régulièrement à des réunions et être accompagné aussi.
Oui. Alors ça, c'est dans le programme des alcooliques anonymes. Alors il y a la priorité, c'est donc il y a trois temps. Il y a juste pour aujourd'hui, je ne prends pas d'alcool. Je vais à ma réunion des alcooliques anonymes ou à mon groupe, on parle de groupe d'accueil hein, ou de groupe de naissance. Et puis, en ritualisant, en allant régulièrement à ces réunions, on va cheminer, on va avancer avec quelqu'un qui correspond ou qui correspond pas toujours d'ailleurs au départ, mais qui est solide, qui nous paraît solide. On va s'appuyer parce que en alcoolique anonyme il y a ce qu'on appelle
Forcément ce qu'on appellerait un ami, pas forcément.
Ah non, pas forcément.
Pas forcément.
Non, c'est même mieux que ce soit quelqu'un. Oui, c'est pas forcément un ami, mais c'est une personne avec qui, dans un premier temps, on a une confiance totale, parce que à la fois il est serein. Il est moins émotif parce que moi, une de mes fragilités, c'est cette émotivité à fleur de peau. Donc cette personne a l'air un peu plus distanciée. Et puis, quand on parle de parrain, de parrainage, ça veut dire aussi confier des morceaux de sa vie, des morceaux peu glorieux qu'on ne peut pas dire dans une réunion d'alcoolique anonyme. Parce que dans une réunion d'alcoolique anonyme, c'est vrai que les amis qui nous accueillent, les plus anciens, on fait attention, on respecte l'autre. C'est rare dans une réunion d'alcoolique anonyme où sont déversées des choses qui ne peuvent pas être entendues. Le parrainage, ça permet de dire des choses extrêmement douloureuses qu'on a pu vivre dans l'alcool. Donc ça, c'est un aspect un petit peu de soulagement, ça nous aide un peu.
Si j'ai bien compris aussi, dans la méthode des alcooliques anonymes, il est question d'un guide supérieur que vous appelez Dieu ou une puissance supérieure. De quoi s'agit-il ?
Alors, la première étape, d'ailleurs, il y a une seule étape où on parle de l'alcool, c'est la première. Défaite, accepter notre défaite totale et capituler. Ensuite, on passe dans cette deuxième étape, nous acceptons l'idée d'une puissance supérieure. Et la troisième étape, c'est nous avons une puissance supérieure. Alors, les alcooliques anonymes, on parle de puissance supérieure parce que quelqu'un qui pourrait être athée ou agnostique, ça ne peut pas être un frein pour qu'il se stabilise ou qu'il trouve une solution à sa difficulté avec l'alcool. En l'occurrence, moi, j'avais eu une éducation, ça ne me choquait pas. Et j'ai vraiment, au bout de 6 mois, accepté cette puissance supérieure. J'ai repris un peu la foi de mon enfance, de mon éducation. Et puis voilà, ça s'est fait.
Oui, mais Maryse, ça a du sens pour vous, cette puissance supérieure ?
Oui, j'avoue qu'au départ, je me suis demandé ce que ça venait faire dans mes histoires de bouteilles de vin, parce que moi, je n'ai ici pour une histoire de bouteilles de vin, je n'ai pas pour autre chose.
Oui, effectivement.
Et alors, quand j'ai entendu parler de Dieu, de puissance supérieure, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça vient faire ? Et puis, j'ai tout de suite compris, je me suis dit, mais pourquoi ce mercredi soir, qu'est-ce qui fait que j'ai téléphoné et que le jeudi, je ne buvais plus ? Il s'est quand même passé quelque chose de supérieur à moi-même. C'est pas, il y avait pas une personne humaine derrière moi qui m'a suivi pas à pas pendant toutes ces premières journées. C'était quelque chose qui était bien, bien au-dessus de moi. Donc, j'en suis venue à cette idée, en effet, qu'il y avait une puissance supérieure, sans préciser quoi que ce soit. On dit aussi un Dieu tel que chacun le conçoit. Voilà. Alors, j'ai conçu ça comme le hasard au départ.
C'était donc cette émission Alcoolique Anonyme, voir progresser, instituer. Mais je vais demander à Alain un peu de nous dire, un peu, de nous rappeler des choses pratiques.
D'abord, pour joindre Alcoolique Anonyme 24 heures sur 24, vous pouvez nous joindre au 0820 32 68 83, 0820 32 68 83, ou alors sur le site internet au www.alcoolique-anonyme.fr.
Et pour les personnes isolées et pour les prisonniers également, il y a aussi une bonne adresse à laquelle on peut écrire, Maryse.
Oui, vous pouvez nous écrire à Alcoolique Anonyme Haute-Normandie, au CHU Charles Nicolle, 76 031 Rouen Cedex.
On répète, Maryse.
Donc alcoolique anonyme au CHU Charles Nicolle, 76 031 Rouen Cedex.
Et à l'attention d'une personne
à l'attention de Alain, Maryse, voilà, il y a une personne que vous aurez entendue.
Vous mettre un nom que vous aurez entendu à la radio, par l'attention d'Alain ou Maryse par exemple. Voilà. Alain, Maryse, merci. En attendant de nouvelles aventures.
Oui. Merci, Henri.
Merci, Henri.
À une prochaine. La prochaine émission d'Alcoolique Anonyme, cette sixième que nous venons d'enregistrer, sera donc diffusée le 4 mars à 20h et rediffusée le 6 mars à 11h sur 88.1 au moins pour RCF autour de Rouen.